L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Une foule met à mort deux notables à Ballon, en Sarthe. C'était le 23 juillet 1789, pendant la Révolution française. Une journée que l'histoire retient comme le jeudi fou. Lorenzo Gérard, étudiant en master d'histoire à la Sorbonne, y a consacré son mémoire. Entretien avec le jeune chercheur pour mieux comprendre cet événement de l'histoire de Ballon. Bonjour Lorenzo Gérard.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet pour votre mémoire?
Alors, ce qui m'a amené à m'intéresser, c'est tout d'abord en licence au Mans, voilà, par un professeur. J'ai été amené à parler de ce sujet, donc il m'a mis au courant de cet événement. Et ensuite, en retournant en master d'histoire à la Sorbonne, je me suis repenché sur la question. Il y avait des choses à refaire. Voilà, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était en 1989, lors du bicentenaire. Donc voilà, fallait un peu réétudier la question sous un autre prisme.
Oui, parce que du coup, vous avez fait une licence d'histoire au Mans avant d'intégrer le master d'histoire à la Sorbonne.
Ouais.
Quand on fait un travail d'historien, la première difficulté, c'est d'abord de trouver des sources. Est-ce que vous en aviez suffisamment sur le jeudi fou?
Oui, c'est Monsieur Benoît Musset, maître de conférence au Mans, qui m'a mis sur la principale source de ce mémoire, qui est la procédure criminelle des tueurs, ceux qui ont tué les deux notables. Cette source, c'est la B1429 qui est disponible aux archives départementales de la Sarthe. Elle est énorme. Rien que l'information criminelle fait 200 pages. Donc lire 200 pages d'écriture ancienne, c'est très, très, très long.
Vous avez dû la lire entièrement?
Non, moi j'ai dû opérer des choix, mais il y a un étudiant au Mans qui va sortir son mémoire en septembre prochain, là, qui lui, de ce que j'ai compris, va s'y attarder entièrement. Ouais.
Ah, donc il y a un autre étudiant qui étudie le jeudi fou pour son mémoire.
Ouais, sauf que lui, il y consacre vraiment tout le mémoire. Moi, c'est que ma deuxième partie, on va dire. C'est que mon chapitre 2.
Ah d'accord, donc ça fait partie d'un ensemble plus vaste. De quoi il parle dans son ensemble, votre mémoire, dans ce cas?
Moi, du coup, j'essaye de relier ça avec les cahiers de doléances, voir si quelques mois auparavant, il y avait déjà une hostilité qui naissait envers la noblesse. Au final, il s'avère que non, puisque moi, j'ai fait une étude quantitative des doléances. Sur 1235 doléances que j'ai étudiées, il y a que 2,7% dont émane une hostilité envers la noblesse, donc ce qui est quasiment rien. Et il y a 78%, c'est contre, par exemple, le clergé, la situation financière, etc.
Peut-être à expliquer très rapidement ce que sont les cahiers de doléances.
Le royaume, il subit une grosse crise économique en 1787, 88, début 89. Mmh. Du coup, Louis XVI convoque les états généraux. Pour faire simple, aux états généraux, ils réclament des cahiers de doléances. C'est entre guillemets les hommes âgés de plus de 25 ans qui sont chargés de se réunir dans leur paroisse, dans leur village. Et ils sont tous chargés de rédiger des doléances. Donc c'est des plaintes, des choses qui vont pas, ils expriment leurs conditions de vie, et tout ça c'est censé remonter au roi.
Et alors pour revenir donc sur le jeudi fou à Ballon, pour le contextualiser un peu, il intervient au début de la Révolution, pendant une période appelée la Grande Peur. Alors on entend plus souvent parler de la période de la Terreur, qu'est-ce que c'est la Grande Peur alors?
Alors la Grande Peur, ça a été théorisé par un historien, Georges Lefebvre, dans un ouvrage de 1932, qui est... encore aujourd'hui d'actualité. C'est à la suite de la prise de la Bastille à Paris, donc le 14 juillet. L'information se répand dans les campagnes. Et là, il y a des rumeurs qui émergent comme quoi les aristocrates voudraient soudoyer des prétendus brigands pour couper les récoltes et du coup affamer le tiers état. Donc. Mmh. Et du coup, en réponse à ça, ces habitants, pour se défendre contre ces brigands, qui veulent au final vraiment les affamer et les tuer, vont prendre les armes pour se défendre. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de la Grande Peur. Toutes les paroisses vont se réunir, vont se mettre en armes pour tenter de se défendre contre ces prétendus brigands.
C'est une forme de paranoïa du tiers-état, en fait.
Exactement, c'est ça, c'est vraiment ça.
Et alors, pourquoi cette rumeur d'un complot de brigands? Est-ce qu'il y a quand même des faits historiques qui ont donné naissance à cette rumeur? Est-ce que cette rumeur, elle est basée sur quelque chose de vrai, au moins?
Pas à ma connaissance, non. Elle est vraiment basée que sur des rumeurs, que sur des on-dit et que sur ce que Georges Lefebvre identifie comme des réseaux de communication. Par exemple, par des correspondances privées ou par aussi des lettres. Par exemple, le maire du Mans, donc il a eu l'écho de ces brigands et il a envoyé des lettres à tous les curés sartois. Et du coup, les curés en ont parlé aux paroissiens, aux habitants de leur paroisse. Et de fil en aiguille, tout le monde s'est entre guillemets monté la tête. Et voilà.
Alors, quels ont été les effets concrets de cette rumeur? Qu'est-ce qu'elle a produit sur les habitants de Ballon? Qu'est-ce que les habitants de Ballon ont fait en conséquence?
Alors, en conséquence, les habitants de Ballon, comme beaucoup de paroisses, ils ont pris les armes, ils se sont organisés pour se défendre contre ces brigands. Et la singularité de Ballon, c'est qu'il y a dizaines, vingtaines de paroisses qui sont tous réunies à Ballon, qui sont tous rassemblées pour défendre Ballon. Donc, par exemple, il y a les paroisses notamment de Nouan, de Lucé-sous-Ballon. Nouan, Lucé-sous-Ballon, j'en oublie sûrement. Mais il y a eu vraiment un vrai rassemblement de paroisses pour défendre la ville de Ballon, qui était du coup la plus grande ville des alentours.
Mais pour la défendre contre des brigands qui n'existent pas, qu'est-ce qui s'est passé du coup?
Et bah, finalement, oui, ils se sont rendus compte que les brigands n'arrivaient pas. Sauf qu'entre temps, il y a des meneurs locaux qui ont pris le relais, entre guillemets, qui ont dirigé la haine vers justement les nobles, les deux nobles, Curo et Montesson.
Et alors oui, ces deux notables, donc Curo et Montesson, donc selon la rumeur, c'est eux qui auraient engagé les brigands, c'est bien ça?
C'est ça. En fait, les notables étaient vus comme les affameurs du peuple, sachant que Curo, était vraiment un des plus riches marchands du Mans.
Et alors comment
était vu comme un des plus riches marchands du Mans, pardon.
Et alors comment est-ce que vous le traitez d'un point de vue historique, cet événement? Quelle a été votre démarche d'historien par rapport au Jeudi Fou? Comment est-ce que vous l'avez problématisé dans votre mémoire?
Alors déjà, dans un premier temps, j'ai tenté d'établir un lien avec les doléances. Il s'avère que le lien, il n'y a aucun lien finalement avec les cahiers de doléances. Et après, j'ai étudié ça dans une tradition qui remonte au milieu du XVIIe siècle. Voilà, il y a beaucoup de rébellions qui répondent au schéma qui s'est produit à Ballon. Je fais aussi une comparaison avec ce qui se passe à Paris, notamment les assassinats de Foulon et Berthier, qui reproduisent exactement le même schéma que Curé Montesson, dans le sens où la foule s'acharne contre eux, les tue, ah oui, découpe leurs têtes, les promène au bout des pics.
D'accord, donc il y a eu d'autres cas similaires pendant la Révolution, en fait.
Ouais, le même jour que Curé Montesson, d'ailleurs, en plus.
Quelle importance est-ce qu'il a, cet événement, à l'échelle de la Révolution? Est-ce que c'était un micro-événement, un fait divers, ou bien est-ce qu'il a eu son importance, quand même?
Non, à vrai dire, à l'échelle nationale, il a pas eu son importance. C'est plus à l'échelle locale, dans le sens où, après, il y a eu la procédure criminelle, qui était là pour faire une grande répression contre tous ces troubles et rétablir l'autorité.
Et alors, et finalement, après avoir examiné vos sources et fait se rencontrer différents regards sur cet événement, est-ce que vous avez des conclusions à apporter par rapport à votre mémoire?
Oui, tout à fait. Alors les conclusions, c'est que la violence, elle transparaissait pas du tout dans les doléances. Ensuite, le basculement vers la violence, donc ma source principale, la B1429, la procédure criminelle, elle permet de montrer que le 23 juillet, il dépasse vraiment le cadre de l'émeute frumentaire. Par exemple, Curé et Montesson ont proposé des sommes à la foule pour en échange de leur vie. Donc, il me semble que c'est des 50 000 et 200 000 livres. Et la foule a évidemment refusé. Il y a aussi la présence, évidemment, de meneurs locaux, comme Francoeur, Barbier, qui sont des anciens soldats. Et les exécutions de Curé et Montesson, elles sont quasi militaires, en fait. Notamment dans les témoignages où on parle de sons de tambour. Et aussi, il y a évidemment une appropriation des codes de la justice, avec les décapitations, la tête au bout des pics. Et en fait, finalement, ça prouve une violence qui s'est organisée au fur et à mesure contre des symboles, et c'est pas juste un simple débordement.
Mais alors, quand vous dites que, a priori, dans les cahiers de doléances, il n'y avait pas d'hostilité, a priori, vers les nobles, est-ce que finalement ce double meurtre, il s'explique uniquement par un coup de folie de la foule? Est-ce que ça veut dire que c'est un fait qui échappe à l'histoire, qui ne s'explique pas historiquement?
Ah, c'est une bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, mais ça s'inscrit aussi dans le contexte du début de la Révolution où à contrario, dans les cahiers de doléances, par exemple, j'ai notamment étudié les cahiers de doléances de la ville de Terreau, pas très loin de Ballon, et où vraiment on dénote des habitants qui sont en disette, quasi en famine. On parle de larmes, on parle de gens qui meurent de faim, en fait. Donc c'est vraiment tout ce contexte, entre guillemets, de ras-le-bol qui s'exprime au plus haut point avec ces assassinats, en fait.
Et alors, quel livre est-ce que vous pourriez nous conseiller si on veut se renseigner davantage sur le Jeudi Fou? Est-ce qu'il y a des éléments de votre bibliographie que vous conseilleriez, ouais, aux curieux?
Alors tout d'abord, le premier ouvrage, c'est celui de Georges Lefebvre de 1932, donc La Grande Peur de 1780. Donc c'est lui qui théorise finalement l'événement. Ensuite, il y a eu l'ouvrage de Monsieur Jean-Clément Martin, donc qui reprend lui un peu ce que Lefebvre a fait, où il va un peu le contredire sur certains points. Donc c'est important d'avoir ces deux regards. Et ensuite, plus localement, un ouvrage de 1989 de Christine Perrard, donc voilà, qui elle consacre tout son ouvrage justement au Jeudi Fou. Ouais, c'est les trois principaux que j'ai utilisés.
Et donc, vous avez déjà passé votre soutenance? Comment ça s'est passé?
Oui, c'est ça. J'ai rendu mon mémoire et j'ai passé ma soutenance le 29 juin dernier. Ouais. Ça s'est très bien passé. Mon directeur de mémoire était très content. Enfin, voilà, il n'y a rien à redire, franchement.
Et vous enchaînez, sur quelle suite, alors?
Alors, moi, ensuite, j'enchaîne sur... j'ai été pris en classe prépa talent pour les instituts régionaux d'administration. Et moi, je vais à l'IRA de Nantes.
Et donc, ça veut dire vous enchaînez sur un doctorat ou pas du tout, rien à voir?
Non, pas du tout. Pour l'instant, non. Mais c'est une porte que je ferme pas du tout, honnêtement.
Eh bien, je vous remercie, Lorenzo Girard, étudiant en master d'histoire à la Sorbonne. On rappelle que vous avez consacré votre mémoire au Jeudi fou, le meurtre de deux notables par une foule à Bâlon, en Sarthe, au début de la Révolution française, pendant la période de la Grande Peur. Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.